affinités électives. Une émission proposée par Canal Academy.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Academy, merci de votre fidélité. Votre fidélité, justement, à notre antenne, démontre la soif d'apprendre, le désir de transmission des savoirs au carrefour des univers académiques, universitaires et médiatiques qui étreint la société française. Par ricochet, ce désir d'apprendre, cette appétence pour le savoir et l'histoire, fait de cette discipline un enjeu de débat. Bien entendu, de tout temps, l'histoire a certainement été un enjeu idéologique, politique ou autre, mais on a le sentiment que depuis une trentaine d'années, les tensions se sont accentuées, car elles ne portent pas seulement sur la vision de tel ou tel événement, mais sur la façon de l'enseigner, de l'envisager, de la partager et justement de la transmettre. Pour éclairer ces questions, nous avons la chance de recevoir dans notre studio Pierre Nora. Pierre Nora, bonjour.
Bonjour.
Pierre Nora ne vous présente plus, mais je vais le faire quand même parce que notre radio étant académique, on se plie à quelques règles. Vous êtes historien, éditeur chez Gallimard, académicien bien sûr, d'Académie française, directeur de la revue Le Débat. Et si nous avons souhaité vous inviter aujourd'hui, c'est précisément parce que vous republiez aux éditions Gallimard un long entretien paru initialement en 1984 avec Alain Decaux, ce qui nous place d'emblée dans le cœur de notre sujet, puisque 1984, c'est précisément au cœur d'une querelle qui intéressait l'histoire et la façon de l'enseigner, Alain Decaux ayant publié précédemment un article qui restait dans les mémoires où il se plaignait qu'on n'apprenait plus l'histoire à nos enfants. En lisant cet ouvrage, j'ai eu le sentiment que vos échanges n'avaient pas pris une ride et qu'ils étaient peut-être même davantage d'actualité aujourd'hui qu'à l'époque de leur parution initiale.
Et vous feriez plaisir à Alain Decaux, qui aimait beaucoup cet entretien, qui était la première fois qu'un historien, disons, universitaire, de profession et de réputation de l'école des annales, si vous voulez, c'est-à-dire les héritiers de Marc Bloch, Lucien Febvre, etc., s'intéressait à lui et au type d'histoire qu'il faisait, car il était généralement, disons, snobé par l'université et par ce type d'historien.
En replaçant cet entretien dans le contexte, vous me disiez que au début des années 80, il y a quand même un début d'amorce de rapprochement entre ces deux types d'histoire. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu le contexte ?
Mais le contexte, comme j'essaie de l'expliquer dans l'introduction, c'est qu'on vivait un double mouvement très contrasté. D'une part, un rétrécissement de l'histoire enseignée scolairement, depuis les programmes de la réforme Habille, on peut dire. Peu à peu, l'histoire est devenue un objet de discussion très, très sérieuse et n'a plus cessé depuis. Et c'est à propos des programmes de 1979, où l'histoire vivait une sorte d'anémie très nette, que Alain Decaux avait poussé ce cri dont vous parliez, « On n'apprend plus l'histoire à nos enfants ». Il avait donc rendu très publique une querelle qui, depuis quelques années, fermentait seulement dans les milieux internes, scolaires, universitaires et enseignants. Et d'autre part, il y avait une sorte de dilatation publique de la curiosité historienne qui est probablement due à la retombée de ce qu'on a appelé l'histoire des annales, dont je dis d'un mot, c'est une école historique fondée par Lucien Febvre et par Marc Bloch à travers la revue Annales, d'où le titre du mouvement, en 1929, et qui a connu dans les années 50-60 son apogée, et qui, en gros, consistait à lutter contre une histoire dite événementielle, étroitement dominée par les causes et les effets, les personnalités militaires et diplomatiques, l'histoire des grands, d'une certaine façon, l'histoire de l'État même, ou de ceux qui le dominaient, pour une histoire faite par le bas, si j'ose dire, et par le grand large, c'est-à-dire par le grand monde, et d'essayer de trouver des profondeurs historiques qui dominaient la longue durée et qu'on a même appelé l'histoire dite structurale, dans la mesure où elle consistait à définir des grands ensembles structurels de type économique, évidemment, mais aussi de type linguistique ou de type vestimentaire, si vous voulez, ou de mœurs, qui rythmaient la longue durée historique. Donc c'était une forme de grande plongée, et je pense que une date doit être ici quand même rappelée, c'est celle du volume qui, en 1974, avait été dirigé par Jacques Le Goff, qui était un peu le pape de cette histoire annale, et moi-même, où nous avons fait trois volumes qui s'appelaient « Faire de l'histoire » et qui essayaient de faire l'inventaire de cette dilatation de la curiosité historienne. C'est le moment où, effectivement, vous allez voir l'histoire ouvrière, l'histoire des femmes, l'histoire des paysans, exploser, et l'histoire des mœurs, si j'ose dire, l'histoire de l'alimentation, l'histoire du corps, l'histoire des rapports des hommes avec la naissance, la vie, l'amour, la mort, le temps. C'est-à-dire quelque chose qui dépasse de beaucoup l'histoire politique et militaire de l'État. Alors, je crois que toutes ces retombées qui ont rempli des bibliothèques entières d'histoire ont amené le public à un intérêt beaucoup plus large vers l'histoire, et au fond une histoire dans laquelle il se reconnaissait davantage, où il s'intéressait davantage, et qui était le miroir de ce que nous avions été et n'était plus, d'une certaine façon, qui intéressait. C'est en 75 que j'ai publié le livre d'Emmanuel Leroy Ladurie, Montaillou, qui, de la part d'un professeur au Collège de France, faisait à travers une petite bourgade du sud de la France, occitane, de la France occitane, une sorte de miroir de la France à travers un registre d'inquisition de Fournier, qu'il avait, Fournier c'est l'inquisiteur, le nom de l'inquisiteur, qu'il avait retrouvé et qui permettait de faire une sorte de micro-histoire, de petite histoire à travers laquelle la grande histoire pouvait se refléter et se vivre. Ce livre a eu un très grand succès, on en a vendu plus de 100 000 exemplaires, ce qui est quand même exceptionnel, et il marque un peu la date de cette... De cette expansion de l'histoire. On pourrait aussi en trouver une autre date, c'est celle du livre de Pierre Goubert, historien démographe, un des premiers démographes historiens, et qui avait fait une thèse sur un petit village au XVIIe, XVIIIe siècle, à travers les fiches des paroisses qui permettaient de rétablir le flux et le reflux démographique, et il avait élargi tout ce point de vue à la France entière en faisant, je ne me souviens plus de la date, mais ça doit être dans les années 70, un livre qui s'appelait « Louis XIV et 20 millions de Français » et qui consistait à renverser complètement la vision sur le XVIIe siècle. Je crois que la première phrase devait être quelque chose comme « Au XVIIe siècle, l'espoir de vie était de 27 ans et le cimetière était au centre du village ». Quelque chose comme ça, si vous voulez. C'est-à-dire de renverser complètement une histoire par le haut de l'histoire du XVIIe Versaillais par l'histoire du bas des petits qui faisaient leur intrusion dans la grande histoire. Alors, je pense qu'il y a eu un grand intérêt dans le public et dans un large public pour l'histoire, au moment même où l'histoire scolaire paraissait subir une crise très grande. Alors, quel rôle de Co m'a paru jouer là-dedans ? Eh bien, il a paru comme un substitut colère à l'histoire, d'une certaine façon. Il est devenu l'instituteur qui, de plus, exerçait son magistère au moment de la grande poussée de la radio d'abord, mais surtout de la télévision. Et il a correspondu à la naissance, encore une fois, auprès du grand public, des années 70 aux années 85, de la télévision. Il ne faut pas oublier qu'en 1965 encore, il n'y avait que la moitié des Français qui avaient une télévision, et qu'entre 65 et 75, la France entière s'est pourvue de télévision. Alors évidemment, un homme qui avait le privilège, le devoir et la capacité de faire une fois par mois presque une heure en direct en regardant chaque Français dans les yeux pour sans notes lui raconter une histoire avec l'art du récit, de la simplicité, de la gentillesse, de la bienveillance et de l'érudition qu'avait à la fois Decaux, avait eu un succès extraordinaire et il est devenu l'incarnation de l'histoire pour la majorité des Français. Alors ça avait évidemment quelque chose de très tentant pour un historien comme moi qui s'intéressait à l'histoire du présent, de me tourner vers lui pour lui demander comment il s'y prenait et quel type d'histoire il faisait et quel type d'histoire il ne pouvait pas faire.
Oui, car en l'occurrence, vous nommez cet objet un peu... cet ovni qui apparaît dans le monde de l'histoire, c'est l'historien médiatique.
Oui.
Comment le caractériser, cet historien médiatique? Au-delà du fait que, oui, ok, c'est un historien qui parle à la radio ou à la télévision, c'est un peu court,
voilà.
Il a d'autres caractéristiques.
Alors, voilà, ça impose des contraintes qui font d'ailleurs que ce type d'histoire était méprisé ou négligé par les intellectuels et les universitaires, mais qui avait son public. Alors, quelles contraintes? La première, c'est de dramatiser. C'est-à-dire qu'il raconte un événement de façon épique, d'une certaine façon, à la fois psychologique, et il prend par conséquent il trouve des histoires toutes faites qui parlent un peu à la mémoire collective du public et il le saisit au moment où Brutus donne son coup de poignard à César, au moment où en 68 De Gaulle va dire qu'il dissout l'Assemblée
ou
qu'il ne part pas et puis reprend les problèmes. Quand je dis reprend les problèmes, reprend l'exposition de l'événement. Ça, c'est la première des contraintes et qui est très contraire, effectivement, à une histoire sérieuse qui était en train de gagner tant de sujets, c'est-à-dire, au contraire, de replacer l'événement dans son contexte, de se demander pourquoi il a eu lieu. Ben, je crois, l'exemple de Schliemann, sur lequel, d'ailleurs, avait fait une très belle émission et même un livre de Decaux.
Rappeler qui est Schliemann. Hein.
Celui qui a découvert les ruines de Troie, si j'ose dire. Et l'archéologue qui a au fond lancé dans le grand public, dans les années 1860, je crois, l'archéologie, si j'ose dire. Et alors, il le fait de façon très romanesque, en rappelant qu'à l'âge de 7 ou 8 ans, lisant un livre sur la guerre de Troie, le père de Schliemann lui avait dit... Mais il y a encore des murs, et le gosse avait dit « Mais ils ont été tellement grands, ces murs, que c'est pas possible qu'il n'y ait pas des ruines quelque part. » Alors, tout part de là, si vous voulez, la naissance de la vocation de Schliemann. Alors que effectivement, un historien plus universitaire se dirait « Qu'est-ce qu'on savait de l'Antiquité à ce moment-là? Qui la pratiquait? Où en était-elle ? Quelles étaient les questions qui se posaient et qu'est-ce qu'avait lu Schliemann de tout ça et comment il, voilà.
Est-ce que l'opposition est irréductible finalement?
Je crois, oui. Je crois que l'opposition est irréductible parce que le rapport au passé et le rapport au sujet est complètement différent. ou devrait être complètement différent. Il me semble que le rapport au passé qu'avait, justement, d'une façon très emblématique, Alain de Caux, dont il faut bien dire qu'il était exceptionnel et qu'il n'a pas d'héritier. Il y a de très bons historiens qui font de... Mais je dirais pas que Stéphane Bern, dont j'apprécie beaucoup le travail...
C'est un travail différent.
Est très différent, n'est-ce pas ? Par rapport à celui de Decaux. Donc Decaux est quand même assez spécial. Decaux était... C'est pas pour rien que j'ai fait ensuite un livre un peu analogue à cet article d'entretien avec Pivot. C'est que les deux étaient monsieur tout le monde. Et au fond, de la même façon que Pivot posait à ses interlocuteurs et aux auteurs les questions que le lecteur voulait ou aurait voulu lui poser, Decaux était cet homme qui racontait à tous, de 7 à 77 ans, une sorte d'histoire, je dirais presque bienveillante. Moi, ce que je ne dis pas reprochais, mais faisais remarquer dans l'entretien, c'est que la technique qu'il employait fatalement faisait que, si différentes que soient toutes les histoires qu'il racontait, elles étaient un peu semblables. Parce qu'il y avait un début dramatique, une fin généralement heureuse, et lui me raconte, et alors que le travail même de l'historien, c'est de montrer au contraire la différence des temps, la différence des hommes, et les chemins par lesquels on va de l'un à l'autre, mais encore une fois, de dresser peut-être le miroir de ce que nous ne sommes plus, d'une certaine façon, pour un historien. Tandis que lui, l'historien médiatique, a un rapport au passé, je dirais, de filiation, presque direct. Il se projette dans son affaire, que ce soit, puisqu'on évoquait l'assassinat de César ou mai 68, il s'y projette de la même manière et il établit entre l'événement qu'il raconte et lui-même une sorte de lien, de filiation et presque d'héritage. Alors que l'historien, disons universitaire, établit au contraire une discontinuité, et le sentiment d'une rupture, et travaille cette rupture d'une certaine façon. Voilà. Et donc il y a quand même une grande différence, en plus du fait que ces émissions sont calibrées toutes de la même manière, par le temps, par les conditions dans lesquelles elle est enregistrée, et par conséquent, c'est un peu fatal que d'une certaine façon, le style même que lui impose la personne qui le raconte, en fait le grand-père qui raconte l'histoire de France, d'une certaine façon. Ce qui intéressait, ou ce qui m'intéressait chez Decaux, c'est que à cette petite histoire de France, il avait été, au fond, ses maîtres, c'était Le Nôtre, qui était vraiment un historien de la petite histoire, et c'était Alexandre Dumas, dans le côté littérature romanesque, épique. Mais, à la différence, à mon avis, de son collaborateur André Castelot, qui faisait l'histoire des reines de France, par exemple le procès de Marie-Antoinette. Je lui demande à un moment donné dans l'entretien comment est-ce que vous l'auriez fait. Il me dit, mais je ne l'ai pas fait, c'est Castelot qui l'a fait, précisément. Et parce que, à travers le procès de Marie-Antoinette, il y a mille façons de faire cette histoire du procès, et ça m'avait frappé que au fond, quand Castelot la faisait, il y avait une sorte de parenté, d'une certaine façon, entre la monarchie française et lui, dont il était encore nostalgique. Il avait un rapport affectif avec cette période qu'il raconte. Tandis que il me semble que Decaux, qui est parti avec Castelot au départ, et même pendant très longtemps, ils ont travaillé ensemble.
En alternance.
Eh bien, il a eu, lui, une émancipation intellectuelle, une conscience des problèmes et des enjeux qui le distinguaient. Et dans ces grandes émissions comme celle des Cathares, Il avait un sens de ce qu'était le protestantisme à travers la terreur et la vertu. Il avait le sens du grand enjeu qu'il y avait dans l'histoire révolutionnaire. Et c'était comme ça pour tous les sujets qu'il abordait. Mais enfin, il faut bien se dire, il y avait quelque chose qui était... Ce qui faisait quand même la nouveauté extraordinaire, c'était cette performance pendant un mois de lire tout ce qui était écrit sur le sujet. Et il ne prétend pas autre différence avec l'université, c'est qu'en principe, un travail universitaire ajoute quelque chose de nouveau et de réellement nouveau au problème qu'il étudie. Soit par la recherche dans les archives, soit par le regard qu'il porte sur ce sujet. Tandis que l'historien, je dirais médiatique, il hérite du sujet tel que la mémoire collective l'a transmise et il le redécline à sa façon, mais il n'y ajoute rien, théoriquement.
On est donc bien dans la transmission.
On est dans la transmission, absolument. On est dans la transmission. Ingurgiter pendant un mois toute la littérature possible, faire son plan et pratiquement improviser son histoire en la calibrant du point de vue temporel.
Je précise une précision technique pour nos auditeurs. Moi, je pensais, parce que je me souviens des émissions d'Alain Decaux, je pensais qu'il avait encore ce qu'on appelait un prompteur,
non.
C'est-à-dire un texte qui déroule sous la caméra. Pas du tout.
Pas du tout. Alors, ça suppose une concentration avec, n'oubliez pas, un professeur, il peut se tromper. Et dans sa classe, où le cours suivant, il dit « je me suis trompé », puis d'ailleurs, personne n'est là pour lui faire remarquer qu'il s'est trompé sur une date ou sur un fait. Tandis que la moindre faute dans une émission comme celle de Lecaux lui valait un courrier terrifiant et il ne pouvait pas se permettre d'en faire beaucoup, ni de se corriger un mois après. Alors ça suppose vraiment une maîtrise verbale, intellectuelle, documentaire, impressionnante et je crois qu'il perdait 2 kilos après chaque émission, si vous voulez, c'était comme un grand athlète au fond.
Pour illustrer votre propos quant à... aux règles contraignantes qui l'obligeaient à traiter ces sujets d'une certaine façon avec une dramaturgie, dans l'entretien, vous le citez pour l'interviewer, vous rappelez un de ses textes où il explique la chose suivante à propos du 19 Brumaire. Pourquoi traiter le 19 Brumaire? Réponse d'Alain Decaux à cette question, parce qu'il s'agit d'un drame au déroulement presque classique où ne manque ni l'unité de temps, ni l'unité de lieu, ni l'unité d'action. Parce qu'au sein d'une telle crise et un tel drame, un homme se révèle dans sa nudité.
Voilà. Alors, ça suppose en effet 2 choses. Ça suppose d'abord que les hommes sont pareils sous César, sous Napoléon et aujourd'hui.
Bah là, évidemment, il défend en disant « oui, mais l'histoire se répète ».
Voilà.
Rome et Bonaparte, c'est plus facile que dans d'autres sujets.
Et que l'homme est toujours le même. Or... tout historien de l'amour vous expliquera que l'amour dans l'Antiquité, ce n'est pas l'amour au Moyen-Âge, ce n'est pas l'amour au XVIIe et ce n'est pas l'amour aujourd'hui. Et justement, c'est ça le problème de l'histoire de l'amour. Alors qu'au fond, il présentera les passions, les colères et les amours des hommes, au fond, et la psychologie humaine, disons, comme éternelle à elle-même. Et cela m'amène à dire qu'au fond, l'historien dit médiatique... il hérite du sujet tout fait. Alors que l'historien universitaire, ça consiste, un, à créer son sujet, à le découvrir, à le fabriquer et à le construire. Et donc à voir les choses autrement que l'histoire nous les a généralement transmises. Alors que l'historien médiatique se contente quand même du bagage et du stock qui a été accumulé avant lui, précisément par les universitaires. Autrement dit, il n'y aurait pas d'historien médiatique, il n'y aurait pas de Decaux à chaque émission s'il n'y avait pas eu des universitaires derrière.
Ce qui m'amène à penser qu'en réalité, l'historien médiatique est plus un journaliste historique.
Oui. Mais ce qui était quand même intéressant à l'époque aussi, c'était ce surgissement des médias, et qui aujourd'hui est devenu une telle routine, une telle banalité, qu'il y a moins de phénomènes médiatiques. Écoutez, moi j'en avais étudié trois, si j'ose dire. J'avais eu Decaux, j'avais eu Pivot un peu après, et comme mes collègues universitaires qui m'avaient, comme Le Goff par exemple, s'étaient moqués de moi que je me sois intéressé à l'histoire à la Decaux, beaucoup de mes auteurs s'étonnaient que je me tourne à l'époque vers, ou des intellectuels au milieu desquels je vivais, que je me tourne vers Pivot, qui était en gros l'horreur. Aujourd'hui, il est consacré, sacré, nationalisé, si j'ose dire, panthéonisé, mais à l'époque, il était encore très contesté, et beaucoup de mes confrères trouvaient que passer chez Decaux était... Ben, je pouvais vous raconter que quand Duby est passé la première fois chez Decaux, je suis passé le prendre chez lui, et que Madame Decaux, telle Lysistrata, avait l'air de le menacer de se brouiller avec lui ou de l'abandonner s'il allait chez Pivot, et qu'il a fallu que je le traîne comme si on allait dans un mauvais lieu. Et donc, c'est tout dire que les historiens, au fond, et pourtant, Duby pouvait se le permettre parce qu'il était au Collège de France, et qu'il avait pour ambition de toucher le public, d'écrire pour le public, d'écrire pour le public. Alors, bref, je m'étais intéressé à Pivot pour les mêmes raisons que je m'étais intéressé à cause de ce phénomène médiatique. Et je n'ose pas dire, mais j'avais fait dans le débat, je vous le rappelais tout à l'heure hors antenne, un article au moment, précisément dans ces années-là, au moment où Bernard-Henri Lévy avait écrit l'idéologie française, et j'avais fait un très long article, pas une critique, c'était 20 pages, pour dire, c'est pas du tout intéressant ce qu'il dit, mais on a la naissance d'un phénomène qui, lui, mérite d'être analysé de très près. C'est l'intellectuel généralement particulièrement rébarbatif aux médias qui écrit pour les médias et qui est lui-même un phénomène médiatique. Et à travers son succès naissant, ce que Lévy n'a pas pardonné, c'est précisément de ne pas le traiter en intellectuel, mais de le traiter en phénomène significatif de la naissance des médias et du rapport compliqué que les intellectuels allaient avoir à partir de ce moment-là avec les médias. Alors, je pense que cette naissance, si vous voulez, des médias, est aujourd'hui tellement banalisée, encore une fois, qu'il y a probablement moins de contrastes ou de phénomènes de ce type.
Oui, puis peut-être.
D'ailleurs, il n'y a pas d'historien médiatique aujourd'hui du type de co, et les intellectuels médiatiques, c'est fini.
Mais est-ce que c'est pas aussi parce que, à cette époque, pas si lointaine, les médias restaient peu ou prou monopolistiques, c'est-à-dire que le soir, l'ensemble des Français avaient accès à une, deux, trois, quatre chaînes de télévision,
voilà.
Alors qu'aujourd'hui le paysage est tellement éclaté.
Exactement.
Voilà. J'en parle avec un ami qui est plutôt dans la production de musique, il me disait, mais tu sais, prenons une autre figure dans le domaine de la musique, Johnny Hallyday, c'est devenu impensable aujourd'hui.
Voilà, exactement.
Ce ne peut plus être, il n'y aura plus de référent commun, voilà. Générationnel.
Voilà, exactement. Et pour les acteurs d'ailleurs, c'est un peu la même chose. C'est devenu un métier comme un autre. Il n'y a plus les divas, si j'ose dire, qui n'essayent que la médiatisation avait fait particulièrement diva.
Alors, est-ce que, justement, pour Alain Decaux...
Yves Montand, même.
Oui, enfin, je pense que le dernier, c'est Depardieu. Il est sur la fin.
Il est sur la fin, certainement.
Mais il incarnait un peu la France, son panache, à travers Cyrano
et
d'autres
fait,
figures.
Là, tout à fait.
Mais il appartient au passé aussi, déjà.
Oui, c'est vrai.
Et on l'aime pour son passé, pas
c'est
pour
vrai.
Son présent.
C'est vrai.
De même que Johnny Hallyday.
C'est vrai.
Et quant à Alain Decaux, Voilà, vous le qualifiez d'instituteur national, hein, c'est tout à fait le cas. Est-ce que ce n'est pas un problème quand même aussi pour, j'allais dire, pour la cohésion nationale, presque quand même, cet éclatement en général des expériences? En réfléchissant sur l'ouvrage, je me venais à penser à Maffezoli qui parlait, vous savez, de sociologue, qui parle de l'émergence de tribus différenciées, d'autant plus déroutantes qu'elles se recomposent sans cesse, du reste. Comment peut-on faire tenir ensemble un pays, une nation, si simultanément, comme ça, chacun se construit sa petite histoire dans son coin, chacun bricole sa petite identité dans son coin, et éventuellement avec de l'acrimonie et du ressentiment à l'égard de la communauté voisine qui demain se transformera. C'est un vrai problème, non ?
Oui, vous soulignez un problème d'atomisation au fond du champ culturel et du champ intellectuel et du champ artistique qui s'inscrit elle-même, cette atomisation, dans un problème beaucoup plus large et qui est à ce point investi de passion et de passion politique, qui est ce problème, disons rapidement, de l'identité collective et nationale, et de cette unité de nationale que le courant du multiculturalisme qui s'est développé en France précisément depuis ces années 1880 est venu assez largement mettre à mal. D'où cette crispation aujourd'hui identitaire sur ce que l'on appelle le roman national, qui problème devant lequel je suis, si vous voulez, presque un peu solitaire, dans la mesure où je ne m'inscris pas personnellement dans un des deux camps, celui de l'hostilité à l'histoire nationale, unitaire, et où je ne m'inscris pas non plus dans la défense exacerbée du roman national telle qu'elle est un peu pratiquée. Donc, je intellectuellement, personnellement, pour avoir été un peu le chef d'orchestre de cette grande entreprise dont il y a une trentaine d'années qui s'appelait Les Lieux de Mémoire, et qui est encore intellectuellement vivante auprès du public, et je lutterai sur deux fronts, si j'ose dire, en déplorant ou en constatant que l'opinion tend à se radicaliser d'un côté comme un autre, disons à gauche pour tout dire, et à droite de l'autre pour être... Mais ça ne recouvre pas complètement, c'est pour ça que j'utilise ces mots avec précaution, parce que, comme vous dites très justement, quoique la frontière n'est pas uniquement entre ces deux familles politiques, mais elle passe aussi à l'intérieur de chacune d'elles. Oui. Mais il y a quand même le débat tend à se figer entre ces deux positions d'une défense un peu inconditionnelle d'une identité nostalgique, perdue, ce qui est vrai, et en même temps fantasmée et rêvée, d'un déclin, pour tout dire, ou d'une métamorphose de décadence, avec avec un autre courant qui n'est pas simple, parce que une partie de ce courant est carrément hostile il n'est pas anti-français, mais il est quand même pour une dissolution de ce qu'on appelait traditionnellement l'identité française dans une identité plus vaste. C'est le courant que le livre qui a actuellement un grand succès, semble-t-il, de l'histoire dite mondiale de la France, dirigée par Boucheron, par Patrick Boucheron, professeur au Collège de France, est en train d'illustrer et d'avoir, et puis un courant, je pense, beaucoup plus extrémiste, qui est carrément d'une sorte d'hostilité à la nation française, à l'idée même de la France et de la nation, comme si elle devait ne se raconter qu'à travers son négatif, à travers et ça c'est beaucoup si vous voulez l'histoire dite enfin le mouvement d'une histoire mondiale et d'une revisitation de l'histoire coloniale accusatrice de l'histoire nationale et qui au nom de laquelle l'histoire nationale tout entière devrait se réécrire au prisme de cette histoire d'une oppression. Donc l'État, c'est une histoire à l'envers de la nation que cela voudrait essayer de faire, et où il y a une véritable dissolution de l'idée nationale et presque d'hostilité à la simple idée de la nation, de la France et d'une histoire centrée sur elle, sans que l'on comprenne pour autant quel type d'histoire il faudrait enseigner aux enfants proprement dit. Parce que cette atomisation dont vous parlez, elle touche aussi à l'intérieur même de la discipline la difficulté de faire la même histoire quand on s'adresse à des jeunes enfants et quand on s'adresse à des adolescents supérieurs ou à des étudiants ou à des chercheurs, où on peut faire une histoire beaucoup plus distancée, critique, problématique, etc. Tandis que sur les enfants, il faudrait faire une histoire affirmative. Alors, à mon avis, les enseignants ont tranché le problème et les programmateurs en disant ben, « on ne va pas faire d'histoire voilà. ». Et si vous regardez au fait dans l'enseignement primaire, on n'en fait pratiquement plus.
Ça me laisse sans voix, un peu effrayé.
Je vous laisse sur cet effroi, mais, c'est la vérité.
Est-ce que de la sorte, on ne rajoute pas au trouble ? Moi, j'ai le sentiment que vous parliez des crispations identitaires sur l'histoire nationale, le fait national. De l'autre côté, ceux qui veulent la déconstruire. Est-ce que la bonne réponse à apporter, ce n'est pas finalement cette histoire un peu comme la concevait Alain Decaux, c'est-à-dire un roman national, mais apaisé, intégrant ses contradictions.
S'ouvrant, d'une certaine façon, à sa propre critique, mais sans... Oui, mais je pense que c'est le problème colonial qui a beaucoup... Mais ça a croisé aussi le problème... Regardez le problème révolutionnaire. Pendant le bicentenaire de la Révolution, ça a été à droite comme à gauche, une crispation et les partisans de ce futur roman national n'ont eu de cesse quand même de criminaliser la France sur la Vendée ou sur les massacres de septembre. C'était ça à quoi la Révolution se réduisait et évidemment à la terreur.
Il y a quand même des partisans du roman national qui n'ont pas cette vision-là. Non ? Alain Decaux, par exemple, est un partisan du roman national. Le dit relativement clairement à la fin de l'entretien.
Oui, mais c'est tous ces problèmes sont délicats. Parce que c'est un roman national centre-gauche, celui de... Et c'est un roman national héritier des instituteurs de la Troisième République, et essentiellement républicain, de centre-gauche, hugolien. Mais c'était la nostalgie d'une sorte de progressisme du XIXe siècle qui, si on y réfléchissait deux minutes, ne pouvait plus avoir cours autant où parler de Co.
En tout cas, il nourrit, et le sentiment qu'aujourd'hui encore, il nourrit, enfin, il suffit de voir les débats qui tournent autour de l'école, le nombre de parents, certainement d'une façon fantasmée, mais c'est à prendre en compte, nourrissent une nostalgie de l'école de la Troisième République, de la façon dont ça se passait avant, même lorsqu'on parle d'orthographe ou d'apprentissage de l'orthographe.
Oui.
C'est l'autre débat qui naît aujourd'hui, une nouvelle réforme de la façon d'enseigner la grammaire.
Oui.
Aussitôt, la référence, c'est l'école de la Troisième République et la capacité qu'elle avait à rassembler, à créer de la cohésion et à transmettre.
Oui, mais c'était une autre époque. Vous savez, le roman national, comme on dit, il supposait d'abord que la France savait quel avenir elle voulait. C'était quand même un progrès continu qui... on m'attribue, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, l'expression « roman national » précisément, que j'avais utilisée en étudiant ce que j'ai commencé par faire, Lavis. Et Lavis, Ernest Lavis, est vraiment l'homme qui, au début du XXe siècle et à la fin du XIXe, a su raconter l'histoire de la même façon aux enfants et aux adultes et faire à la fois des manuels élémentaires et une vaste histoire de France en 27 volumes destinés aux agrégatifs dont il définissait lui-même d'ailleurs le programme et de l'agrégation et de faire cette histoire de France. Mais il ne faut pas oublier que c'était conditionné par des phénomènes de fond. D'abord, la nécessité à l'époque de réconcilier la France avec l'Ancien Régime. C'est-à-dire de trier dans la longue histoire de France celle qui amenait l'avènement de la République et de définir cette République par rapport à l'Allemagne dans son territoire, dans ses formes républicaines, dans son régime et dans son rapport à la nation civique, citoyenne, et enfin que cette histoire a été couronnée quand même par la victoire de 1918, c'est-à-dire que toute cette histoire de France s'achevait sur une happy end, sur une heureuse fin, qui était cet avènement conjoint de la nation, de la France et de la République, au lendemain de la guerre de 14. C'est moins facile aujourd'hui, où les jeunes Français ont devant eux le chômage de masse, un avenir plus incertain que celui de leurs parents, au mieux une insertion dans un ensemble européen dont ils ne voient pas les formes et dont ils ne comprennent pas la nécessité, si j'ose dire, et donc l'avenir en fonction duquel on peut raconter le passé n'est pas tellement glorieux, si j'ose dire, ni facile. Donc c'est vrai que trouver une forme unitaire d'un récit national, va-t-il être fondé sur la naissance de la démocratie et l'histoire, au fond, d'un pays depuis la patrie des droits de l'homme, si j'ose dire, mais au fond, ça n'est pas facile, il faut reconnaître, sans quoi on le ferait, on le trouverait facilement, de trouver l'unité de récit qui permet de faire une histoire continue. D'autant que on a de moins en moins d'heures de cours d'histoire. Il faut regarder le nombre d'heures. C'est comme le français. Vous savez, vous faisiez allusion à la déperdition de la langue, aux fautes d'orthographe et à la crispation sur l'enseignement de la langue. Mais je ne sais plus exactement le nombre d'heures, mais c'est de l'ordre de 4 heures de moins par semaine qu'il y avait il y a 10 ans encore, ou 20 ans. Donc, en histoire, c'est la même chose. Vous avez de moins en moins d'heures et la nécessité absolue d'apprendre de plus en plus de choses parce que le monde s'est complètement ouvert et que vous ne pouvez plus faire comme vous faisiez autrefois l'histoire de la Chine à partir du break-up of China, c'est-à-dire de l'invasion des Européens en 1840 en Chine, où vous ne pouvez pas faire l'histoire de l'Afrique uniquement à partir de Barraza et des expéditions de découverte de l'Afrique. Il y a eu l'histoire de l'Afrique avant la colonisation, dont vous ne pouvez pas ne pas tenir compte. Et donc l'histoire du monde a explosé, d'une certaine façon, et la mondialisation, effectivement, depuis une trentaine d'années, implique qu'on apprenne l'histoire de la France à l'intérieur de ce monde. Et elle est tout entière à écrire et à faire. Et je ne pense pas que ce soit celle qui naît sous le nom d'histoire mondiale de la France aujourd'hui qui réponde à la question.
De fait, si la nécessité d'acquérir des connaissances de plus en plus vastes est concomitante à une réduction des heures qui sont consacrées à les disciplines, on va dans le mur.
Eh bien, je ne vous le fais pas dire.
Alors ça, c'est un premier problème. Je vais quand même réagir à ce que vous disiez. De fait, établir un roman national au moment du happy end de 1918, c'est plus facile. Toutefois, comme vous l'aviez cité tout à l'heure, je me permets de citer Marc Bloch, toujours avec la même citation qu'on ressort à chaque fois. En 1940, c'était moins facile. Et toutefois,
Et en 62, pas plus facile voilà. Non plus.
Mais il évoquait quand même, en 1940, loin d'être à la pièce. 62,
c'est la fin de la guerre d'Algérie.
Oui. Mais la nécessité de vibrer aussi bien au Sacre de Reims qu'à la fête de la Fédération.
C'est moins facile aujourd'hui. Je suis réaliste. Et j'y réfléchis beaucoup parce qu'effectivement, je me pose la question que vous vous posez. J'en aurais même, si j'étais plus jeune, l'ambition d'essayer de le faire. Et je ne saurais pas par quel bout commencer. Parce que pour l'enseignement, les professeurs qui apprennent ont été formés à la mauvaise école depuis 30 ans, eux-mêmes. Et eux-mêmes ne savent pas l'orthographe, si j'ose dire. Donc, ils sont censés l'apprendre, mais... Et ils n'ont pas à la corriger, comme vous savez. Les professeurs qui ne sont pas des professeurs de français ne corrigent pas les fautes d'orthographe.
Oui, pour avoir des enfants, je l'ai constaté.
Ben oui. Donc, il faudrait commencer par refaire des professeurs, si j'ose dire, avant de faire des élèves, et comment les faire. Donc, il faut très longtemps pour tout ça. Il faudrait une continuité pédagogique que la succession des ministères et la volonté de chaque ministre de faire une nouvelle loi ne facilitent pas. Et le problème est vraiment difficile. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le résoudre, mais je comprends les hésitations devant les solutions à donner.
Est-ce que c'est cet enseignement, celui de l'histoire, mais aussi bien sûr de la littérature, de la philosophie, n'est pas victime aussi, finalement, de l'ambiance générale et de l'engouement
évidemment.
Général pour tout ce qui est utilitaire?
Bah, évidemment. Et par la priorité du prisme économique et financier à travers lequel on interprète la réalité et le progrès de cette réalité qui passe par, en principe, une des solutions données à des problèmes économiques. Donc il y a une priorité absolue qui est donnée, comme vous dites, à l'utilitaire. Il y a et tout cet enseignement, il faudrait commencer par démontrer qu'il est utile. Et comme vous savez, il y a une espèce de querelle évidente entre ceux qui diraient il est inutile. Il vaut mieux apprendre une langue étrangère qu'apprendre le français, à la limite, parce qu'on a plus à l'utiliser qu'il faut apprendre, ou qu'apprendre le latin ou le grec. C'est une évidence, c'est une des raisons d'hostilité à l'enseignement du latin et du grec pour tout le monde. Du latin pour tout le monde. Et l'histoire, c'est la même chose. À quoi bon apprendre l'histoire si elle ne nous apprend rien ? Fondamentalement.
Oui, cela ne nous sert à rien. Plus exactement, non, c'est plus autre chose. Ça ne sert à rien.
À quoi on peut répondre avec la belle phrase de Lucien Febvre qu'une histoire qui sert à quelque chose est une histoire serve. Mais enfin, c'est une formule et il est vrai qu'il n'est pas tellement évident ni tellement facile pédagogiquement. Je le sais d'expérience et de dire pourquoi c'est utile. Et c'est probablement la première chose à essayer de pédagogiser vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres pour donner le goût de cette histoire et le goût de l'histoire. Alors évidemment, pour revenir à Decaux, il savait en donner le goût par cet art, il faut dire, de l'identification et du récit. À la fois, il s'identifiait lui-même au sujet qu'il racontait, par empathie, par intériorisation, par épousaille de son sujet, et il le faisait de telle manière qu'on s'identifiait à lui le racontant. Autrement dit, il y avait une projection de soi-même à travers l'histoire. Et l'enseignement autrefois était tout entier fait là-dessus. Les manuels de Lavis dont vous parliez et que j'avais beaucoup étudié, favorisaient mais ce type, tous les manuels, pas seulement celui de Lavis, les manuels catholiques où les faisaient l'inverse, mais favorisaient la même identification et projection de soi-même à travers une histoire collective. Aujourd'hui, le monde va si vite aussi. Il est dominé par de telles autres valeurs que celles dont nous avons hérité. Et il va si vite et d'une manière si inquiétante que l'apprentissage d'une histoire passée devient beaucoup plus problématique. C'est une évidence.
Qu'elle soit problématique, j'en suis convaincu.
Qu'elle soit utile, je le suis aussi.
Voilà.
Je me poserai pas le problème de sa difficulté si je ne pensais pas qu'elle était indispensable à apprendre. Mais elle n'est pas évidente.
Je livre à votre réflexion les deux faits suivants. C'est vrai que la France a un problème de crise économique très difficile à résoudre. C'est évident. Mais elle a aussi un problème de crise identitaire très évident à résoudre et qu'il est nécessaire de résoudre, sinon il va se terminer probablement assez mal.
Oui.
Enfin, pour donner un autre exemple d'ampleur bien moindre, pour parler avec de nombreux chefs d'entreprise aussi, ils me disent « Ah oui, le savoir-faire, c'est très important, mais finalement, ce qui nous manque le plus aujourd'hui chez nos nouvelles recrues, c'est le savoir-être ».
Oui.
C'est avoir un petit peu de profondeur de champ et de capacité même à aller vers les autres, à comprendre d'où ils viennent, à se projeter et à avoir une vie sociale, au sens propre du terme.
Mais c'est certain. Écoutez, naturel. Moi j'ai été toute ma vie professeur et ça me permet de dire que ce que je crois que ce qui est le plus important de ce qu'on enseigne, c'est ce qu'on est. Ça a l'air, c'est pas que je leur demande de me ressembler, mais je veux dire, les élèves retiennent beaucoup plus qui vous êtes que ce que vous leur apprenez, en fait. Et je pense que c'est, pour revenir et faire le dernier mot sur Alain Decaux, c'était ça, son succès. C'était qu'il avait une prise directe, si j'ose dire, par sa personnalité sur les élèves de France, qui étaient tous les Français, c'est-à-dire les Français qui étaient ses élèves, et qui sentaient en lui cet homme, au fond, je dirais respectable à beaucoup d'égards, ou intéressant, avec lequel on pouvait s'identifier d'une certaine façon. Et que c'était ça qui faisait son succès. Mais ça a l'air un peu provocateur, mais je crois que ce n'est pas faux de dire que ce que les... Même en histoire, et la pédagogie est générale là-dessus, les élèves sont beaucoup plus sensibles à qui vous êtes qu'à ce que vous dites.
Merci beaucoup, Pierre Nora. C'est donc le mot de la fin. Pour ceux qui voudraient se replonger et élargir ces débats, je rappelle les références de l'ouvrage qui était le support de cette conversation, « L'histoire médiatique, entretien entre Alain Decaux et Pierre Nora », publié donc initialement dans l'excellente revue « Le Débat » et désormais réédité par Gallimard, qui est aussi l'éditeur du débat d'ailleurs. Et bien sûr, vous aurez toutes les références utiles sur le site internet. Merci de votre fidélité une fois de plus. Et merci à vous, Pierre Nora.
Merci à vous.